France Culture.
La science CQFD, Natacha Trioux.
L'astrophysicien Alain Riazuelo vient de publier l'ouvrage « 10 scénarios pour la fin du monde ». Quelle est l'espérance de vie de l'univers et connaîtra-t-il nécessairement une fin ? Comme l'aurait dit le physicien Niels Bohr, les prédictions sont très difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Concernant le destin de l'univers, autant le dire tout de suite, l'incertitude est notre seule certitude et nous n'avons que des spéculations. Les derniers jours du cosmos sont-ils comptés ou à l'inverse, est-il parti pour s'étendre indéfiniment ? Est-ce littéralement l'éternité qui l'attend ? Tentons de nous projeter dans ce futur extraordinairement lointain à un gogol d'années, 10 puissance 100 ans, et promis, ce ne sera pas triste. Alain Riazuelo, juste la fin des mondes. Et Alain Riazuelo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien, chercheur CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris et vous venez de publier donc aux éditions TANA 10 scénarios pour la fin du monde. Grand merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure, en podcast. Merci aussi à ceux qui nous suivent sur YouTube et à tous ceux qui nous rejoignent sur Blue Sky, sur notre compte @sciencecqfd. Vous y retrouverez plein de ressources pour compléter votre écoute. Alors Big Freeze, Big Crunch, Big Boons, Big Slurp, quels sont ces 10 différents modèles cosmologiques de la fin des temps. Quel est le scénario le plus crédible et que restera-t-il à la fin ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais pour vous citer Alain Riazuelo, le passé est souvent indispensable pour éclairer le futur. On commence donc avec notre archive du jour.
Pourquoi c'est si important de revenir vers nos origines, Hubert Reeves, et de savoir ce qui s'est passé il y a 5 milliards, ou je ne sais même pas d'ailleurs, puisque je lis dans certains magazines, 15 milliards.
15, oui, c'est plutôt 15. C'est une préoccupation des êtres humains depuis toujours. Les origines, d'où venons-nous, c'est quelque chose qui nous importe. Non, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment vous en êtes venu à être ici aujourd'hui.
Oui, bonne question.
Quels sont les éléments qui, de votre passé, je ne parle pas seulement de votre passé, de votre vie, mais de le passé, de la naissance de la vie, de la naissance de l'univers, de tous ces événements dont nous sommes le fruit. Et c'est un petit peu ça, la théorie du Big Bang. C'est une promesse de nous enseigner sur ce qui a fait que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. C'est fascinant, non ?
Hubert Reeves sur France Inter, le 13-14 de France Inter en 1994. Alain Riazuelo, avant de parler de où allons-nous, on peut déjà se poser la question d'où venons-nous ?
Oui, on se pose la question depuis à peu près un siècle, en fait. L'âge de la Terre, c'est plus ancien, mais extrapoler ça à l'univers dans son ensemble, on se pose ces questions-là depuis les années 1920, parce que c'est à ce moment-là qu'on a les outils, en fait, les outils théoriques et les outils observationnels pour aborder cette question. Et donc, dès qu'on a les outils pour, on le fait, évidemment.
C'est ça, le Big Bang, on est 1924-1927 pour la naissance de cette théorie.
Voilà, c'est ça. Donc en 1915, Einstein publie les équations de la relativité générale qui décrivent les phénomènes gravitationnels en général, mais à grande échelle. Donc on peut appliquer ces équations pour décrire l'univers. Et on se rend compte que selon toute vraisemblance, l'univers ne peut pas être statique, il ne peut pas être éternel. Il est probablement en expansion. Et donc, il a une histoire et possiblement une origine.
Alors, sur cette question de l'origine, le modèle du Big Bang, c'est le modèle sur l'univers primordial le plus solide dont on dispose aujourd'hui. Peut-être plus précisément, qu'est-ce que ce modèle qui décrit ce qui s'est passé il y a 13,8 milliards d'années ?
Alors, il dit qu'il s'est passé quelque chose qu'on ne connaît pas complètement il y a 13,8 milliards d'années. L'idée, c'est assez simple. On constate qu'aujourd'hui, l'univers est en expansion. Donc, par le passé, il était plus dense, plus chaud. Et si on extrapole le comportement des équations, il n'y a pas d'événement qui pourrait avoir empêché que ce soit également le cas plus tôt. Donc l'univers est issu d'une phase très dense, très chaude, à laquelle on donne un nom, le Big Bang, et qu'on ne sait que incomplètement décrire, puisque précisément les conditions de température et de pression font que on ne peut pas tester en laboratoire tout ce qui s'y est passé dans une infime fraction de seconde, peut-être initiale.
On a les équations de Friedman qui décrivent cette dynamique, en particulier l'expansion de l'univers. Tout ça, c'est des articles fondateurs qui sont publiés en 1923.
1922 et 1924. Donc il est le premier à a donné tort à Einstein. En fait, Einstein pense, n'a pas envie que l'univers évolue au cours du temps. Donc, il dit la gravité, c'est attractif, mais en fait, je vais rajouter un terme répulsif pour équilibrer tout ça et l'univers pourra être éternel. Et Friedman est le premier à dire, mais en fait, non, c'est totalement ad hoc, c'est totalement artificiel. Peut-être qu'il y a un terme répulsif, mais s'il n'est pas parfaitement ajusté, il ne pourra pas empêcher l'univers d'évoluer. Donc, Friedman fait ça en 1922-1924. Il se dispute un peu avec Einstein parce que Einstein n'aime pas ce résultat, en fait. Il dit qu'il y a probablement une erreur. Et trois ans plus tard, en 1927, il y a un physicien belge, physicien et ecclésiastique, ce qui est un clin d'œil étrange, qui reprend les équations de Friedman, qui arrive à la même conclusion indépendamment de Friedman, et qui surtout réalise que cette expansion de l'univers, on doit pouvoir la voir, parce qu'en 1927, on sait que les galaxies existent, on soupçonne que les galaxies s'éloignent de nous, et si les galaxies s'éloignent de nous, c'est peut-être précisément parce qu'elles révèlent l'expansion de l'univers.
Vous faites allusion à l'abbé Lemaître.
Voilà, Georges Lemaître, effectivement, je ne l'ai pas cité, qui était physicien et ecclésiastique, mais qui a eu cette force de caractère de ne jamais mélanger les genres et de se battre contre ceux qui voulaient mélanger les genres, justement.
Là, on parle de cette histoire de science, 1922-1924, mais l'une des grandes questions de la cosmologie, aujourd'hui, c'est celle du devenir de l'expansion de l'univers.
Voilà, c'est facile de constater que l'univers est en expansion, c'est relativement inévitable d'arriver à la conclusion qu'il est issu d'une phase très dense et très chaude où là, notre connaissance des lois physiques dans ces conditions-là ne nous permet pas de dire trop de choses. Par contre, sur le devenir de cette expansion, est-ce qu'elle va continuer ou pas? C'est un peu comme vous lancez un caillou en l'air. Si vous le lancez assez fort, il échappe à l'attraction terrestre et il ne retombe pas. Et si vous le lancez pas assez fort, il retombe. Et donc, si vous ne savez ni à quelle vitesse vous avez lancé votre caillou, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le taux d'expansion de l'univers, ni la vitesse limite au-delà de laquelle il ne va pas retomber, vous pouvez pas deviner juste au moment où vous le lancez ce qui va se passer. Donc, pendant longtemps, on a été confronté à cette situation où on ne savait pas vraiment dire quelles étaient les... On savait décrire les issues possibles, mais on savait pas choisir laquelle. Et à la fin du siècle dernier, on a peu à peu convergé vers l'idée que l'expansion... Si elle n'était pas indéfinie, elle serait sans doute très très longue.
Parce que cette expansion de l'univers, en effet, à la fin du XXe siècle, 1998, on découvre que l'expansion de l'univers est accélérée.
Voilà, c'était une idée. On aime bien donner une date définitive, donc on aime bien donner ce. Mais en fait, depuis le milieu des années 90, il y avait un nombre croissant d'observations qui indirectement était incompatible avec le fait que l'univers soit soumis uniquement à une force de gravité attractive, celle qu'on connaît, mais qu'il y avait peut-être un machin répulsif, celui-là même que Einstein avait envisagé pour avoir un univers statique. Et donc ce phénomène-là fait que plus on attend, s'il y a suffisamment de cette entité qu'on appelle de l'énergie noire aujourd'hui, qu'on appelait une constante cosmologique à l'époque, s'il y a suffisamment de cette entité-là, elle domine de plus en plus la dynamique de l'expansion, et comme elle est répulsive, elle assure que l'expansion va se produire indéfiniment, du moins tant que ses propriétés restent celles que l'on observe aujourd'hui, évidemment. On ne peut pas se prononcer sur ce point-là, puisque on constate que cette entité existe, mais on ne connaît pas exactement sa nature et donc ses propriétés au cours du temps.
C'est ça, c'est que ce machin répulsif, cette énergie noire, on n'en sait rien, ou presque.
Mis à part qu'elle existe très probablement, ou en tout cas qu'il existe quelque chose qui imite ses effets avec une redoutable efficacité, on ne sait pas quelle est sa nature. Et donc, on peut faire des modèles ou des... description possible de cette énergie noire. La description la plus simple, c'est que ses propriétés sont rigoureusement constantes au cours du temps, auquel cas ça nous assure que l'expansion de l'univers va se poursuivre indéfiniment. Mais si les propriétés de cette entité dont on ne connaît pas la nature devaient changer, peut-être que son effet répulsif s'atténuerait et disparaîtrait, auquel cas il faudrait voir comment se comporte l'univers désormais sans cette entité-là. Et là, la question de savoir si l'expansion, probablement dans très longtemps, pourrait ralentir, s'inverser, elle va effectivement se poser, mais ça nous laisse une échelle de temps assez grande et donc ça nous autorise à réfléchir à l'évolution à vraiment très long terme de l'univers, parce que c'est l'hypothèse aujourd'hui la plus... Je sais pas si on peut dire la plus plausible, mais la plus conservatrice et la plus simple.
Mais à partir de quand les scientifiques se sont-ils autorisés à penser à la fin de l'univers ? Est-ce à partir du moment où on a compris qu'il y avait un début, entre guillemets ?
Alors, on s'est plus intéressé à la question du début que de la fin, effectivement.
La genèse.
Voilà. Et puis, l'autre raison, c'est que si vous avez l'expansion de l'univers qui s'inverse, pour donner une phase de contraction et ensuite ce qu'on va appeler le Big Crunch, vous êtes dans la phase d'expansion, donc vous n'êtes même pas à la moitié de l'histoire. Donc, la fin, elle est vraiment dans très longtemps. Alors que le début, vous pouvez essayer de le dater. Et c'est quand même intéressant, comme disait Hubert Reeves, d'essayer de comprendre d'où on vient, quelle est la chaîne d'événements qui, depuis le Big Bang, a permis à la Terre d'exister, à la vie d'exister sur Terre. C'est une question légitime et sans doute universelle.
La question s'est posée quand même sur l'âge de la Terre. Ça, c'est quelque chose qui a préoccupé les scientifiques du passé. Et puis aussi, la date, l'âge du Soleil. On s'est dit que la Terre était quand même assez vieille, que le Soleil lui-même était vieux. Et on s'est aussi posé la question de si cette source d'énergie, un jour, s'éteindra.
Ouais. Alors, si on a vu cette discussion il y a 3 siècles, l'érudit de l'époque, vous auriez dit, l'âge de l'univers, on le connaît très bien. Dieu a créé l'univers et la Terre le dimanche 23 octobre de l'an moins 4004 à midi. Voilà. Quand vous faites une exégèse de la Bible, hein, de la Genèse essentiellement, vous arrivez, et si vous supposez que ce texte est une vérité, vous faites une sorte de travail de généalogiste. Vous savez quel âge avait Adam quand un de ses fils est né. Vous savez quel avait l'âge de ce fils quand il a eu ses premiers enfants, etc. Donc vous pouvez faire une chronologie et vous arrivez au fait que, d'après le récit biblique, la Terre a été créée 4000 ans à peu près avant Jésus de Nazareth. Donc il y a 300 ans, c'est ce que l'on pensait. Et puis il y a un peu moins de 300 ans, des scientifiques ont essayé de questionner ça. Est-ce que l'on peut, par des raisonnements, des mesures scientifiques, avoir un moyen de dater la Terre ? Et très vite, en 1748, je crois, Georges-Louis Buffon, qui est un naturaliste, arrive à la conclusion que la Terre ne peut pas être aussi jeune que le récit biblique, et donc que le récit biblique est inexact, ou en tout cas il ne faut pas lui faire le quantifier pour avoir la date que j'ai citée tout à l'heure.
Oui, c'est ça, Georges-Louis Buffon qui dit que la Terre est un objet qui était chaud à sa formation, et donc il faut bien plus de 4000 ans pour qu'elle se refroidisse.
Voilà, en fait, il a hérité par sa mère d'une forge en Bourgogne, et donc dans la forge, il va faire des expériences. Il va prendre des boulets de canon de taille variable, il va les chauffer à blanc pendant plusieurs jours pour être sûr que le cœur des pièces métalliques soient à même température. Et puis il les sort et il regarde combien de temps ça met pour refroidir. C'est-à-dire combien de temps ça met pour qu'on puisse mettre la main dessus sans se brûler. Et donc il essaie d'établir quelle est la loi qui relie le temps de refroidissement à la taille de ces boulets de canon, qui font juste de quelques centimètres à quelques dizaines de centimètres. Et puis il va gaillardement extrapoler cette loi jusqu'à la taille de la Terre, donc 10 000 km de diamètre. Et il dit non, 6 000 ans, ça suffit pas. Il faut au moins 74 000 ans. Et en fait, il est convaincu que c'est beaucoup plus, mais comme déjà, il multiplie par 12 la chronologie biblique, voilà, il est quand même du genre prudent, il se dit, bon, on va juste se contenter de dire que la Bible, ça marche pas, qu'il y a sans doute des méthodes plus malines que la mienne pour dater la Terre, et que c'est un problème de science et plus un problème de théologie.
On va continuer à dater cette Terre, et en l'occurrence son espérance de vie. Dans votre ouvrage qui se lit à Alain Riazuelo, un peu comme un roman d'aventure, vous parlez d'une première fin des temps, la nôtre, celle de la Terre, avant de dézoomer comme ça peu à peu pour parler de la manière dont va finir notre Soleil, notre galaxie. Donc commençons par cette première fin, la fin de l'humanité, qui va arriver beaucoup plus tôt qu'on ne le pense, avant la mort du Soleil.
Exactement. En fait, ce que je pense que la plupart des auditeurs ont en tête, c'est que le Soleil, il est à peu près, en fait pas tout à fait, à la moitié de son existence. Donc ça nous laisse l'impression qu'on a 5 milliards d'années devant nous. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, parce qu'une étoile comme le Soleil brille parce qu'elle transforme de l'hydrogène en hélium. Bon, ça, c'est des réactions nucléaires. Mais ça provoque un changement très lent et très progressif des conditions physiques au centre du Soleil. Qui se met à briller de plus en plus fort. Alors c'est très lent, hein, c'est quelques pourcents d'éclat tous les milliards d'années, mais la Terre étant à la position où elle est, si vous augmentez de 10% l'irradiation solaire, la Terre devient invivable. Et ces 10%, vous allez les avoir d'ici 1 ou 2 milliards d'années. Et donc nous allons mourir de chaud ou des conséquences du chaud, puisque plus il fait chaud, plus il y a d'évaporation, plus il y a de vapeur d'eau dans l'atmosphère, plus une partie de cette vapeur d'eau s'échappe dans la haute atmosphère. Elle est ensuite détruite par le rayonnement ultraviolet puisqu'elle est au-dessus de la couche d'ozone. Et donc l'eau disparaît puisque les molécules d'eau, H2O, sont dissociées en oxygène et hydrogène et la Terre ne veut pas retenir l'hydrogène quand il est tout seul. Donc on va mourir de chaud et de soif puisque la chaleur va provoquer l'évaporation irréversible des océans.
Cette limite d'habitabilité de la Terre, le seuil exact n'est pas bien défini pour le moment.
Ouais, il n'est pas bien défini parce que ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend de l'évolution de l'eau terrestre qu'on a aujourd'hui. Elle peut être en partie enfouie par la tectonique des plaques, elle peut disparaître d'autres façons. Il n'y a quasiment plus d'eau sur Mars, par exemple, sans que l'eau se soit évaporée de l'atmosphère martienne. Donc ça pourrait arriver plus tôt. Il y a un certain nombre d'incertitudes, mais à peu près tout le monde est d'accord pour dire que d'ici 1,5 milliard d'années, la température sur Terre à la surface dépassera les 100 degrés, donc les océans se mettront à bouillir. Et donc là, c'est fini pour la biosphère.
Bon, 1,5 milliard d'années, hein, mais c'est bien difficile de se représenter, c'est dans longtemps pour rassurer aussi nos auditeurs. Alors quelle est l'espérance de vie de notre Soleil, de notre Voie lactée, du Proton ? Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous avons la joie de nous entretenir une heure avec Alain Riazuelo qui publie 10 scénarios pour la fin du monde. On vient de parler de la fin de notre Terre, de la fin de la biosphère terrestre. Parlons maintenant de la mort du Soleil. D'ici 5,5 milliards d'années, le Soleil va commencer à grossir. C'est ça, pendant à peu près 2 milliards d'années. Vous dites dans votre ouvrage aussi qu'il sera un moment impossible de cacher le Soleil avec son doigt comme ça lorsqu'on le place devant le ciel.
Voilà, c'est ça. Quand vous tendez votre pouce, le Soleil, il a en projet. Il est deux fois plus petit que l'ongle de votre pouce, donc il est loin. Enfin, vous êtes séparé du Soleil d'une distance qui est égale à 100 fois sa taille, donc c'est à peu près la taille de l'ongle de votre pouce quand vous avez le bras tendu. Et puis le Soleil devient de plus en plus brillant, mais au bout d'un moment, il va aussi devenir de plus en plus gros, puisque paradoxalement, à mesure que les réserves du Soleil s'amenuisent, il consomme le peu de réserves qui lui reste de plus en plus rapidement. Et donc, comme il brille de plus en plus fort, il doit grossir pour évacuer une chaleur sans cesse plus grande qui est produite. Et donc, il va rentrer dans ce qu'on appelle la phase de géante rouge, où, comme son nom l'indique, il va beaucoup grossir.
Et la Terre devrait être alors happée par le Soleil, après Mercure et Vénus.
Voilà, en fait, la distance Terre-Soleil, c'est un peu plus de 200 fois la taille du Soleil actuelle. Et le Soleil va grossir d'un facteur 250. Et donc, là où est la Terre aujourd'hui semble être du mauvais côté de la limite qui va séparer les planètes qui vont se faire happer par le Soleil et celles qui ne vont pas se faire happer. Alors il y a des discussions très savantes pour savoir justement quelles sont les chances de la Terre. Les planètes interagissent entre elles, donc elles peuvent légèrement changer le rayon de leur orbite. Donc peut-être que la Terre pourrait, à la faveur de rencontres rapprochées avec Vénus ou Mars, s'éloigner un peu plus, ce qui provoquerait du coup probablement la mort ou la fin plus rapide d'une de ces deux planètes. Donc la Terre a de maigres chances de s'en sortir. Et donc dans le livre, finalement, je ne prends pas parti, je laisse les lecteurs choisir s'ils préfèrent que la Terre se fasse engloutir par le Soleil ou s'ils préfèrent qu'elle soit rôtie mais non consumée par celui-ci quand viendra sa fin.
Alors ce chant du signe de notre astre, en tout cas, je propose un extrait, une lecture de votre ouvrage. Après avoir probablement happé la Terre, le Soleil va atteindre le maximum de sa taille et le fait de son éclat. Plus de 250 fois son rayon actuel, soit près de 180 millions de kilomètres et 2700 fois sa luminosité actuelle. Lors de cette augmentation vertigineuse, un phénomène amusant se produit fugacement. Quand cet éclat atteint 1000 fois l'actuel, le voisinage de Neptune reçoit le même flux d'énergie que la Terre aujourd'hui. Peu avant cela, c'était celui d'Uranus, ou de Saturne encore avant. Glacé depuis des temps presque immémoriaux, plus de 12 milliards d'années, les nombreuses lunes de ces planètes changent d'état. la glace se sublime, se transforme en vapeur d'eau, les dotant d'une éphémère atmosphère. En dessous, le reste de la surface fond et donne à ces mondes lointains de fugaces océans. Triton, la plus grande lune de Neptune, n'y fait pas exception, par exemple. Peu après, ce sera Pluton et son principal satellite Charon, puis la lointaine Eris et quelques autres. Pendant quelques dizaines ou centaines de milliers d'années, ces mondes jusqu'alors infiniment inhospitaliers deviennent vaguement habitables, si ce n'est qu'ils seront désespérément éphémères. Si le Soleil est capable de briller aussi intensément, il ne peut le faire bien longtemps. Chaque fois qu'une lumière brûle deux fois plus, elle brille deux fois moins longtemps, toujours. Aucun être vivant n'aura le temps d'apparaître sur ces mondes aquatiques temporaires, mais ce panache des derniers jours sera vu par beaucoup. Vous parvenez à inscrire des images très fortes à l'esprit, à Alain Riazulo. Alors là, bon, voilà pour les lunes glacées de notre Terre. Que se passe-t-il par la suite encore pour notre Soleil ?
Eh bien, le Soleil a progressivement et puis de plus en plus rapidement grossi, mais l'extinction des feux va être beaucoup plus rapide encore. Et donc c'est pour ça que pendant quelques centaines de milliers d'années, le Soleil brille mille fois plus qu'aujourd'hui, rendant habitable tel ou tel satellite glacé d'une planète géante. Et puis brutalement, ça s'arrête, c'est-à-dire les réactions nucléaires s'arrêtent au cœur du Soleil, le Soleil se contracte, et puis il va entrer dans une nouvelle phase où au lieu de transformer de l'hydrogène en hélium, il transforme de l'hélium en carbone. Donc c'est sa deuxième vie, si vous voulez, mais c'est une vie beaucoup plus éphémère, parce que ça, c'est moins efficace, on produit moins d'énergie. Et donc, pareil, pendant quelques centaines de millions d'années, il va briller à un rythme intense, mais relativement constant. Et puis à nouveau, tout va s'emballer. Donc il y aura une deuxième phase comme celle que j'ai décrite, mais un peu moins intense. Et puis après, c'est l'extinction des feux. Il n'y a plus de réaction nucléaire. Donc le Soleil se contracte. Il se contracte jusqu'à avoir une taille comparable à celle de la Terre aujourd'hui. Sa taille va être divisée par 100, son volume par 1 million, donc sa densité sera de l'ordre de 1 tonne par centimètre cube, hein, votre voiture dans un dé à coudre. Et il va se transformer en ce qu'on appelle une naine blanche, donc un astre mort, mais encore très chaud, parce que, étant très petit, il met beaucoup de temps à évacuer sa chaleur, mais une chaleur très délétère, puisqu'il brille dans l'ultraviolet, et donc il détruit toute molécule complexe qui serait à la surface d'une des planètes encore survivantes à ce moment-là.
Cette naine blanche, ce cadavre d'étoile, elle risque peut-être de percuter d'autres objets.
Alors, ça c'est le futur proche, certain, d'ici 7 et quelques milliards d'années. Et donc, ce qui arrive au Soleil va arriver à toutes les étoiles de notre galaxie. Alors évidemment, quand une étoile meurt, elle, je l'ai pas dit, elle perd une partie de sa masse qui est rendue au milieu interstellaire et qui peut permettre de former d'autres étoiles. Mais le processus se tarit aussi puisque toute la masse du Soleil n'est pas rendue au milieu interstellaire. Le gros de la masse du Soleil reste dans la naine blanche. Donc peu à peu, les galaxies cessent de former des étoiles et peu à peu, les étoiles meurent et donc les galaxies se transforment en cimetières cosmiques. Et si l'univers est doté d'une espérance de vie virtuellement infinie, comme l'étude de l'expansion actuelle le suggère, alors se pose la question, mais que se passe-t-il quand on a l'éternité devant nous dans une galaxie où il n'y a que des astres morts ? Ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une chance pour que deux cadavres d'étoiles entrent en collision. Et donc, il y aura des passages rapprochés de cadavres stellaires avec la naine blanche que sera devenu le Soleil. Ça provoquera probablement l'évasion des planètes qui n'auront pas été happées par le Soleil. Donc si la Terre est encore présente à ce moment-là, elle va échapper à l'attraction du Soleil. Et sur le beaucoup plus long terme, effectivement, tout astre a une probabilité croissante de finir par entrer en collision avec un autre astre. Et donc l'univers devient à la fois vide d'énergie, mais très violent quand il y a des collisions.
Alors, d'ici quelques centaines de milliards d'années, la Voie lactée se transforme donc en cimetière cosmique. On n'a plus que des cadavres stellaires, mais sur le long terme, les galaxies aussi vont s'évaporer.
Alors c'est aussi quelque chose qui se passe, en fait, dans les systèmes planétaires en formation. Au début, on a des centaines de planétoïdes, donc de précurseurs des planètes qui sont plus petits que les planètes, et les planètes grossissent par collision successive avec ces planétoïdes ou par éjection de certains d'entre eux. Donc le disque qui va donner naissance à un système planétaire, il a une masse qui est peut-être 1% de la masse de l'étoile, mais la masse des planètes du système solaire, c'est 0,1%. Et donc 90% de la masse de ce disque protoplanétaire, en fait, disparu, a été éjecté par... en partie parce que le gaz a été soufflé par l'étoile, et en partie parce que la dynamique fait que certains objets se rapprochent du Soleil, plongent dans le Soleil, et puis d'autres s'évadent. Et ce qui est vrai pour les systèmes planétaires en formation est aussi vrai pour un système beaucoup plus massif et comprenant beaucoup plus d'objets qui est une galaxie. Donc toutes les galaxies, naines ou géantes, s'évaporent plus ou moins lentement, d'autant plus lentement qu'elles sont massives. Et donc les galaxies sont sujettes à ce phénomène, mais alors là sur des durées qui deviennent très longues, puisque c'est 10 puissance 24 années, quelque chose comme ça, donc 1-1 suivi de 24 zéros. Donc là, on commence à être pris d'un petit vertige, parce que voilà, 10 milliards d'années, l'âge approximatif de l'univers, c'est 1 suivi de 10 zéros. Là, je vous parle d'une durée qui est 1 suivi de 24 zéros. Donc quelque chose qui est 100 000 milliards de fois plus. Et donc, on se rend compte que face à l'éternité à venir, l'âge actuel de l'univers, c'est un battement de cils.
Outre date vertigineuse, c'est l'espérance de vie des trous noirs, puisque même eux ne sont pas éternels, selon Stephen Hawking, dans sa théorie du rayonnement des trous noirs. Ils s'évaporent, mais eux aussi, très très lentement. Quelle est leur espérance de vie, Alain Riazuelo?
Alors, les trous noirs s'évaporent probablement, puisque le phénomène étant tellement lent, on peut pas le mettre en évidence par des observations astrophysiques. Et à l'heure actuelle, en fait, les trous noirs ne s'évaporent pas, puisque en fait, ils grossissent très lentement du fait qu'ils captent le rayonnement des étoiles. Et ce rayonnement, qui est de l'énergie lumineuse, est transformé en masse. Et donc, les trous noirs grossissent très légèrement. Mais si vous partez très loin dans le futur, dans un univers qui est vide de lumière, alors effectivement, la combinaison des lois de la gravitation et de la mécanique quantique vous disent que, selon toute vraisemblance, un trou noir, c'est pas une membrane totalement imperméable, ça fuit un peu. Et ça fuit en combien de temps? Ben, en 10 puissance 67 années, donc 10 000 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'années. Et au bout de ce temps-là, selon toute vraisemblance, les petits trous noirs s'évaporent, et les gros trous noirs, ben, évidemment, ça prend plus longtemps puisqu'ils sont plus gros.
Pour ces gros trous noirs, par exemple Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif au sein de notre galaxie, vous dites ça fuit un peu, mais comment décrire, comment comprendre ce phénomène d'évaporation des trous noirs?
Alors c'est très peu intuitif, et le résultat trouvé par Hawking avait été une surprise à l'époque, parce que personne ne s'y attendait. Les gens ont été relativement convaincus de son raisonnement. Il y a des points techniques qui mérite d'être éclairci, mais en tout cas le raisonnement est relativement simple, et l'idée qui est une idée fondatrice de la mécanique quantique, c'est que vous pouvez jamais parfaitement déterminer la position et la vitesse d'une particule. Il y a toujours un peu d'incertitude. Si vous voulez mieux connaître la position d'un objet, vous devez l'éclairer avec une lumière de très courte longueur d'onde, puisque la précision de localisation va être liée à la longueur d'onde de la lumière. Et cette lumière à très courte longueur d'onde, elle est très énergétique, donc vous transférez de l'énergie à votre objet, et donc vous allez lui donner éventuellement une vitesse. Donc c'est pas possible de connaître précisément la position et les vitesses d'un objet. Et à cause de ça, en fait, c'est impossible de dire avec certitude qu'une particule a été absorbée par le trou noir. Et donc, en faisant un raisonnement beaucoup plus sophistiqué que l'image simple que j'ai donnée là, Stephen Hawking a pu montrer qu'en fait, un trou noir ne pouvait pas retenir toute l'énergie qu'il contenait. Et s'il émet de l'énergie via la fameuse équation E égale MC2, ben, cette énergie perdue se traduit par une diminution de masse. Mais une diminution extraordinairement lente, qui lui confère une durée de vie qui, à nos échelles de temps, est virtuellement infinie, mais qui ne l'est pas. Et quand on s'intéresse à l'éternité, ben, ce qui n'est pas fini, infini, est fini. Et même si c'est un grand nombre, c'est très petit par rapport à l'éternité.
Voilà, et pour tout comprendre sur l'équivalence entre masse et énergie, j'invite nos auditeurs à se procurer votre ouvrage « Pourquoi E égale MC2 » ou à podcaster notre épisode consacré à ce sujet. Vous évoquez les particules, Alain Riazuelo, mais est-ce que la matière est éternelle, puisque les atomes ne le sont pas?
Alors justement, on ne sait pas si les atomes sont éternels ou pas. Donc les trous noirs, selon toute vraisemblance, ils ne sont pas éternels à cause de ce phénomène d'évaporation. Pour les atomes, c'est moins clair. Donc les particules élémentaires, les protons, les neutrons, etc., sont décrits par un jeu d'équations qu'on appelle le modèle standard. Et dans le cadre du modèle standard, le proton, qui est un des constituants des atomes, et l'électron sont inconditionnellement stables. Donc les atomes ne peuvent pas disparaître. Éventuellement, un atome radioactif comme l'uranium peut se casser en deux atomes plus petits, mais le nombre de constituants, si vous voulez, il est préservé. Mais en fait, rien ne nous assure que le modèle standard est l'alpha et l'oméga de la physique des particules. Et on a même des indications explicites que ce n'est pas le cas, puisque dans le cadre du modèle standard, certaines particules ne devraient pas avoir de masse. Et ces particules ont une masse, ça s'appelle les neutrinos. Donc le modèle standard est une description incomplète des particules élémentaires. Et si vous faites une description différente, il est possible que la matière ne soit pas éternelle. Et donc on essaie de détecter ça en laboratoire. Alors on va pas prendre un atome et on va pas attendre 10 puissance 30 années. Mais on va faire...
Il faudrait être patient.
Voilà. On va faire le contraire, on va prendre 10 puissance 30 atomes et on va attendre une année pour voir s'il y en a un qui se désintègre ou pas, pour d'autres raisons que la radioactivité banale. Et si ça ne marche pas, ben on va attendre 10 ans au lieu de 1 an, ou on va prendre un échantillon 10 fois plus grand, 100 fois plus grand. Et on va sans cesse repousser l'éventuelle limite de stabilité de la matière. Mais en fait, on sent bien que on ne peut pas aller à l'infini, puisque même si on observait tous les atomes de l'univers observables pendant la durée de vie de l'univers, ben on aurait une limite supérieure, une limite inférieure à l'espérance de vie de la matière, mais pas de certitude qu'elle est inconditionnellement stable. Donc ça, c'est vraiment une question à laquelle on ne peut pas prouver que la matière est inconditionnellement stable. C'est ontologiquement impossible.
Et si on arrivait à prouver que la matière est stable, on ne pourra jamais prouver qu'elle est éternelle. Alors l'univers l'est-il ? Dans quelques instants, on examine ces différents modèles de fin du monde.
Et les gens disent, tant pis, c'est quand même pas la fin du monde. Qu'est-ce que je m'en fous de leur avis, ils ne te connaissent même pas. Ils savent pas que quand je marche avec toi, tout s'écarte. Que j'ai pas besoin d'une famille, que ma famille c'est toi. J'ai grave déconné, normal que tu t'emballes. On dormait dans le même lit, mais nos humeurs faisaient bien chambre à part. Quand t'es parti, ça a fait l'effet d'une bombe. T'as dit que c'est fin de notre histoire, moi je l'ai vécu comme la fin du monde.
Yeah. Oh comme je t'aime, oh comme je t'aime. Faut vraiment pas que tu partes. Oh comme je t'aime, oh comme je t'aime. Faut vraiment pas que tu partes. Oh comme je t'aime, oh comme je t'aime. Faut vraiment pas que tu partes. Oh comme je t'aime, oh comme je t'aime. Faut vraiment pas que tu partes.
Alors c'est donc à ça que ressemble la fin du monde. Je l'imaginais pas comme ça la fin du monde. Alors c'est donc à ça que ressemble la fin du monde. Faut vraiment pas que tu parles. Les autres filles me disent c'est quand même pas la fin du monde. Qu'est-ce que je m'en fous, elles sont jalouses parce qu'elles te connaissent grave. Elles savent très bien que quand je marche avec toi, elles s'écrasent. Que t'as pas besoin d'une autre femme puisque ta femme c'est moi. Je te fais des audios quand je bois un peu de vodka. Tellement longue, c'est plus des notes vocales, c'est des podcasts. L'avantage des embrouilles c'est quand on fait la paix. Des avantages, des embrouilles, c'est quand on se fait de la peine. Quand je souris, les apparences...
La fin du monde de Youssoupha en direct sur France Culture, car nous parlons des fins du monde en compagnie de notre invité du jour, Alain Riazuelo, astrophysicien, chercheur CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. On vient de voir que les trous noirs, les galaxies ne sont pas éternels. Parlons maintenant des modèles de cosmologie qui essayent de se plonger dans la fin de notre univers. On a déjà un peu évoqué ce modèle qu'on surnomme également le Big Freeze, le grand gel, un univers noir et glacial. C'est un modèle qui prévoit que si l'expansion conserve son taux actuel, alors la température de l'univers continuera de baisser, comme c'est le cas depuis le Big Bang. La température va diminuer inexorablement, et Alain Riazuelo, on assistera à la mort thermique de l'univers, d'une certaine façon.
Voilà, il y a de moins en moins d'énergie disponible, et cette énergie est répartie dans un volume sans cesse plus grand. Donc la densité d'énergie, l'énergie disponible dans votre environnement proche, est vouée à baisser inexorablement. Et d'où cette idée de mort thermique, qui en fait hante les gens depuis qu'ils ont compris que le soleil ne pouvait pas briller indéfiniment. Ils se sont dit, bah oui, un jour le soleil s'arrêtera de briller, donc on va mourir de froid. C'était le premier réflexe que les gens avaient, qui les déprimait beaucoup d'ailleurs. Si vous lisez Camille Flammarion quand il parle de ça, alors lui il est un peu lyrique, mais d'autres auteurs sont plus sombres. Ils disaient, bon, ça sert à rien de réfléchir à l'avenir, parce que de toute façon... ça va se finir dans le froid, l'obscurité et le silence.
On avait promis que cette émission ne serait pas triste. Mais dans combien de temps ça va se produire, tout ça ?
Alors, ça dépend un peu du système que vous considérez. Le soleil va s'arrêter de briller d'ici 7 milliards d'années, mais les étoiles ont une espérance de vie très différente les unes des autres. Moins c'est gros, plus c'est pérenne. Donc les étoiles de plus faible masse ont une espérance de vie qui se compte en milliers de milliards d'années. Donc voilà, on a de la... Si on vivait à la surface d'une étoile plus grosse que le Soleil, l'espérance de vie de la biosphère serait plus courte. Et pour des étoiles de plus petite masse, c'est le contraire. Maintenant, à l'échelle d'une galaxie, le nombre d'étoiles qui brillent à un instant donné va diminuer parce que le taux de formation d'étoiles est beaucoup plus faible que le taux de disparition des étoiles. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les galaxies vont se muer en cimetière cosmique. Et à la fin, la formation d'étoiles, ce sera des collisions d'étoiles ratées. Dans les zones de formation d'étoiles, on fait des étoiles, évidemment. On fait des objets plus petits qui ne sont pas assez chauds pour former des étoiles. Ça s'appelle des naines brunes. Mais deux naines brunes qui entrent en collision par le hasard et l'immensité des temps à venir, ça peut former une étoile. Donc il y aura encore peut-être une centaine d'étoiles à un moment donné dans les galaxies d'ici très longtemps. Et 100 possibles biosphères qui auront bien du mal à comprendre ce qu'est l'univers vu que la nuit sera désespérément noire.
La nuit sera désespérément noire, c'est que là vous évoquez la fin de la cosmologie, parce que si on se projette dans 100 milliards d'années, pour nos futurs astronomes, qui ne seront donc pas terriens, on peut imaginer que pour ces astronomes du futur, on ne pourra plus avoir accès ni au Big Bang, ni aux autres signaux de l'espace.
Voilà, c'est-à-dire que l'expansion aujourd'hui s'accélère, ce qui veut dire que tous les 10 milliards d'années, en gros, la distance qui sépare deux objets double. C'est en gros ce qui se passe. Donc si vous considérez un volume d'univers qui est celui qui est accessible à votre télescope, il y a un certain nombre de galaxies dedans, peut-être 100 milliards, disons, si c'est un gros télescope. Si vous attendez 10 milliards d'années, 80 et quelques pourcents de ces galaxies seront sortis de ce volume à cause de l'expansion. Et donc il y aura 8 fois moins de galaxies dans ce volume observable. Et encore 8 fois moins 10 milliards d'années plus tard, et encore 10 fois moins 10 milliards d'années plus tard. Et comme des étoiles continueront à briller à ce moment-là, puisque l'espérance de vie des étoiles de faible masse se compte en milliers de milliards d'années, il n'y aura plus de galaxies dans l'univers. C'est-à-dire que des éventuels êtres vivants seront à la surface d'une planète qui entoure une étoile, qui sera dans une galaxie, mais la galaxie la plus proche sera hors de portée des plus puissants télescopes.
Voilà, notre univers observable qui va rétrécir et qui ne va jamais cesser de le faire.
Il va pas rétrécir, mais il va se vider de sa matière. Mais ça revient au même, d'une certaine façon.
Par rapport, on a évoqué là, le scénario le plus probable, celui du Big Freeze. Il y a tout un tas de scénarios. On a le Big Rip aussi, le grand déchirement. Alors on est sur un modèle quand même très spéculatif.
Oui, qui est plus spéculatif que le précédent, mais disons que l'énergie noire, donc ce qui est à l'origine de l'accélération de l'expansion de l'univers, c'est quelque chose d'assez paradoxal, puisque c'est quelque chose dont la quantité d'énergie augmente avec le volume. Donc l'univers s'étend, si vous prenez un mètre cube d'univers, que vous attendez 10 milliards d'années, ce mètre cube se transformera en 8 mètres cubes, et il y aura la même densité d'énergie, et un volume multiplié par 8, donc vous aurez 8 fois plus d'énergie en tout. Donc c'est ça l'énergie noire. C'est très bizarre, mais c'est autorisé par les lois de la physique. On nous explique à l'école que l'énergie se conserve, mais en fait, dans un univers en expansion, c'est pas le cas. Elle peut diminuer ou elle peut augmenter. Et à partir du moment où l'énergie peut augmenter, on peut se dire, mais si l'énergie augmente plus vite que le volume, qu'est-ce qui se passe? Eh bien alors là, il y a une situation un peu catastrophique, c'est que c'est cette énergie noire qui est à l'origine qui impulse, si vous voulez, l'expansion. Et son influence est de plus en plus grande, puisque la quantité qu'il y en a augmente de plus en plus vite. Et donc à ce moment-là, l'univers va voir son expansion accélérée, et tous les objets vont se retrouver écartelés ou déchirés par une expansion de plus en plus rapide et irrépressible. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait se produire, alors pas demain ni après-demain, mais dans quelques dizaines de milliards d'années, puisque on ne peut pas prouver que cette énergie noire n'évolue pas du tout.
Le Big Rip, c'est aussi un modèle qui fait appel à cette énergie très hypothétique, l'énergie fantôme.
Voilà, donc il faut bien donner un nom aux choses. Cette énergie noire, si elle a ses propriétés encore plus bizarres, on appelle ça l'énergie fantôme, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Hein, la quantité d'énergie de l'énergie noire, c'est l'équivalent de quelques atomes par mètre cube. Mais c'est une quantité qui est vouée à augmenter, et à augmenter de plus en plus vite. Donc, au début, ça paraît pas bien méchant, et puis au bout d'un moment, ça va être catastrophique. Et ça va être catastrophique et visible, parce que les objets vont être donc écartelés par cette expansion, par ordre décroissant de taille. Donc les habitants des galaxies verront les galaxies se faire déchiqueter, et puis ils verront les amas globulaires être dispersés, puis ils assisteront effrayés aux planètes de leur système planétaire qui quittent leur orbite, à commencer par les plus éloignées, puis leur Terre à eux quittera son orbite, puis le Soleil et la Terre ne seront plus capables de retenir leur matière à cause de leur gravité, donc plus ou moins exploseront. Et donc on verra la fin du monde arriver progressivement. Alors au début c'est très lent, mais bon, à la fin évidemment ça finit mal.
Et quel est le spectacle que réserverait un Big Crunch ? C'est autre modèle qui est une sorte de Big Bang à l'envers.
Alors le Big Bang à l'envers, les objets commencent à se rapprocher. Et que ce soit un univers en expansion ou en contraction, ça n'a pas vraiment d'effet sur la taille des galaxies. Les galaxies ne sont pas étirées par l'expansion, sauf dans le cas du Big Rip. Et donc aujourd'hui, la distance qui nous sépare de la galaxie d'Andromède, c'est 20 fois la taille de la Voie lactée. Et bien, si l'univers est en contraction, attendez quelques milliards d'années, et ce facteur 20, ça sera un facteur 10, puis un facteur 2. Et donc tous les objets sembleront converger vers vous, hein, chacun a l'impression d'être au centre de l'univers. Et donc on aura un univers sans doute de plus en plus lumineux, puisque les objets seront de plus en plus proches. Et puis au bout d'un moment, tout ça deviendra invivable, parce que quand vous comprimez un gaz, il s'échauffe, donc la température moyenne de l'univers va augmenter, et ça finira mal.
Aussi le Big Bounce, hein, où l'univers pourrait rebondir comme ça en enchaînant phases d'expansion et de contraction, il y aurait plusieurs Big Bang. On continue sur ces questions vertigineuses avec le reportage du jour. Alors pour faire le récit de tels scénarios à échelle cosmique, sur la base de nos modèles théoriques, ça implique de se mettre dans un état d'esprit serein. Alors comment l'astrophysicien que vous êtes, Alain Riazuelo, se conditionne à l'écriture ? C'est la question que Céline Lauzen vous a posée. Bonjour Céline.
Bonjour Natacha.
Vous êtes retrouvée pour une promenade scientifique labyrinthique.
Oui, au Jardin des Plantes du Muséum, un lieu propice pour l'écriture de votre ouvrage, Alain. Alors ensemble, nous avons gravi son labyrinthe et contemplé un cèdre du Liban, importé depuis Londres par le grand botaniste Bernard de Jussieu en 1735. Alors pour songer l'idée de fin, de finitude et de finalité, cet espace a été comme un refuge pour s'adonner à une expérience de pensée vertigineuse mêlant l'histoire du cosmos à celle de l'humanité.
Alors j'ai écrit quelques chapitres de mon livre sur la fin du monde. Et donc ici on est dans un lieu où il y a une certaine pérennité, puisqu'il y a quelques très vieux arbres. Et donc c'est un côté rassurant de se dire qu'il y a certaines choses qui n'ont pas changé trop vite. En fait c'est un lieu chargé d'histoire.
Et un lieu chargé de vie aussi.
Chargé de vie, oui. Il y a des arbres historiques qui sont là depuis très longtemps. Voilà, un des doyens des arbres parisiens est ici. Là bientôt il doit avoir dans les 400 ans. Il y a le plus vieux cèdre de France, là, qui est, si on tourne à droite, voilà, qui a été ramené par Jussieu, paraît-il, dans son chapeau, parce que le pot dans lequel il avait mis deux plants qu'il avait récoltés du côté de Londres s'est cassé, donc il a fini le voyage en les mettant dans son chapeau.
Ce qui est intéressant au pied de cet arbre, c'est qu'on a une vue directe sur la tour de Jussieu, ce qui est un sacré clin d'œil,
oui.
Avec cette belle perspective.
Il y a un lien en fait entre cet arbre et l'astronomie. C'est que Bernard de Jussieu, quand il a crapahuté dans pas mal d'endroits et donc rapporté le premier cèdre en France, alors il n'est pas allé chercher au Liban ou au Moyen-Orient, il est allé chercher à Londres où il y avait quelques plants qui avaient été ramenés au siècle d'avant. Mais après, Jussieu a accompagné une expédition géodésique française à la fin des années 1730. Qui visait à répondre à une grande question scientifique de l'époque, qui, de façon humoristique, pourrait être formulée : est-ce que la Terre est plate et aplatie comme une mandarine ou allongée comme un citron ?
La platitude des pôles.
Enfin, voilà. Et donc, l'enjeu, c'était que, d'après les lois de la gravitation de Newton, la Terre doit être aplatie au pôle. On observe d'ailleurs, et à l'époque, on l'observait déjà, que Jupiter était un peu aplati. Mais les mesures de la courbure de la Terre à l'échelle de la France, de Dunkerque à Perpignan, semblaient indiquer que c'était le contraire, que c'était plus courbé en haut qu'en bas, donc que c'était plutôt allongé. Et donc pour résoudre le problème, on a fait deux expéditions, une en Laponie, une en Amérique latine, pour comparer ces deux courbures à celles de la métropole et donc voir de quel côté c'était plus courbé et de l'autre côté c'était moins courbé. Et donc Jussieu a accompagné l'expédition qui est partie au Pérou, qui a été une des expéditions les plus incroyables et les plus emblématiques de la science de ce siècle. Il y a un historien des sciences qui avait résumé ça en disant le 18e siècle, c'était l'époque où on faisait de la science au risque de sa vie. Puisqu'ils sont partis à une dizaine et il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus.
L'histoire des sciences, c'est important pour vous en tant que astrophysicien qui étudie l'histoire de l'univers et l'histoire de l'humanité et des savoirs.
Quand j'étais en... Alors moi, je suis passé par les classes prépa et... En classe prépa, voilà, maths sup, effectivement. Et en classe prépa, on a un programme très chargé, donc on n'a pas le temps de faire des fioritures. Et quand je suis arrivé en master, donc là, j'étais dans une ambiance plus universitaire, après mon école d'ingénieur, on avait un enseignant, notamment en planétologie, André Brahic, célèbre vulgarisateur.
Les pouvoirs des anneaux de Neptune.
Entre autres, voilà. Et qui nous disait... faites de l'histoire des sciences parce que vous ne savez pas vraiment les choses tant que vous ne savez pas comment on les a su. Et donc...
c'est des croyances.
Voilà. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on mesure la chance qu'on a aujourd'hui de savoir tant de choses. Hein, ça, c'est une idée que je ne sais plus quel philosophe grec avait déjà notée. Il disait, on est prêt à mourir pour connaître des vérités qui un jour seront enseignées à des enfants de 5 ans. Et effectivement, on a beaucoup de chance quand on... Quand on lit les ouvrages d'il y a un ou deux siècles, on se dit, ah bah, il y a quand même beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas, beaucoup d'erreurs qu'ils faisaient. Donc, ça aussi, c'est une leçon d'humilité. Il ne faut pas être trop affirmatif. Hein. Des fois, on croit qu'on est sûr, mais on ne l'est pas encore. Et donc, ça permet d'avoir une sorte de hauteur de vue qui est quand même utile au bout d'un moment. Voilà, donc, le fameux cèdre. Hein.
Et donc, vous venez souvent ici
Ça arrive, ça me... Voilà. En ce moment, c'est un des endroits qui me fait du bien. Et effectivement, j'ai écrit quelques chapitres de mon livre. Voilà, c'était...
Dans quel état d'esprit on doit se placer quand on essaie de faire le récit de la fin? Enfin, notre finitude humaine, terrestre, celle du système solaire, galaxie, etc. Vertigineux, en fait.
Oui, c'est vertigineux, mais peut-être pas pour cette raison-là. C'est vertigineux parce que les échelles de temps qui apparaissent sont de plus en plus grandes. En fait, l'âge de l'univers, on sait tous que c'est 13 milliards d'années, mais en fait, 13 milliards d'années, c'est rien du tout par rapport à l'éternité à venir.
L'éternité qui nous
voilà. C'est Camille Flammarion, dont on fête le centenaire de la mort cette année, qui faisait remarquer. Mais de toute façon, face à l'éternité, une seconde ou un milliard d'années, c'est de toute façon infiniment court. Et donc, si l'univers vit très vieux, et de ce que l'on comprend, il pourrait être parti pour vivre très vieux, 13 milliards d'années, c'est pas beaucoup.
Dans votre livre, justement, vous faites une interlude où vous parlez de la musique des nombres.
Oui, oui,
avec
oui.
Cette ribambelle d'ordre de grandeur.
Oui, oui, en fait, pour préparer en fait les lecteurs au très grand nombre qui allait surgir après. Et donc vertigineux et presque absurde en fait, parce que à quoi ça sert un univers si vieux où il se passe de moins en moins de choses?
S'il n'y a personne pour le constater, il n'y aura personne pour le déplorer.
Exactement. Oui, mais en fait, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est que dans l'histoire de l'univers qu'on raconte, on part du Big Bang, formation du système solaire, de la Terre, apparition de la vie, apparition de la vie multicellulaire, et puis apparition de l'homme, et puis voilà, rideau, puisque on arrive là. Et donc comme on apparaît à la fin de l'histoire, il y a toujours une ambiguïté entre la fin et la finalité. Et quand on regarde ce qui se passera plus tard, avec des échelles de temps vertigineuses et un univers a priori assez hostile à la vie, on se dit, bah oui, la vie c'est une courte période. La période de la vie c'est une courte période de l'histoire de l'univers. Et l'histoire sera potentiellement beaucoup plus longue. Et donc, voilà, tout ça n'a pas été fait pour nous, que pour nous en tout cas.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo, sur votre appli Radio France, bien sûr. Alain Riazuelo, pour prolonger ce qu'on vient d'écouter, dans quelle mesure réfléchir à ces temps très longs, sur ces échelles de temps extraordinairement lointaines, c'est quelque chose de pertinent?
En fait, tout système physique mérite d'être étudié. Et quand vous étudiez les choses, vous modélisez les choses, et puis vous négligez les choses qui sont sans intérêt ou qui se produisent sur des échelles de temps qui n'ont pas cours. Et quand vous pensez à des temps très longs, en fait, des phénomènes que vous aviez négligés jusque-là, parce que trop improbables, ils vont devenir inévitables. J'ai cette phrase dans le livre, un événement improbable face à l'éternité, c'est une certitude qui prend son temps. Et donc il y a un côté très rigolo, c'est qu'on pense... On pense jamais, est-ce que le Soleil pourrait entrer en collision avec une autre étoile? Et on n'y pense pas parce que sur les 10 milliards d'années d'existence de la Voie lactée, il n'y a aucune chance que ça se produise. La probabilité est bien trop faible. Mais si on attend très longtemps, ça arrivera forcément.
Mais est-ce que les lois de la physique... pourquoi pas envisager que les lois de la physique puissent changer d'ici là, dans 10 puissance 100 ans?
Elles pourraient changer, effectivement, elles pourraient changer. On ne sait pas pourquoi les lois sont ce qu'elles sont. On ne sait pas pourquoi le proton est 1836 fois plus massif que l'électron, donc ça pourrait changer. Mais chaque fois qu'on a essayé de voir un changement des lois physiques, par exemple le rapport de masse entre le proton et l'électron, on peut le déterminer indirectement en regardant le rayonnement de galaxies très lointaines, donc qui ont émis leur lumière très tôt, et on peut voir si, via cette lumière très ancienne, ce rapport-là a changé ou pas, et donc on ne voit pas de changement. Donc, même si on ne sait pas pourquoi le proton est 1836 fois plus massif que l'électron, on ne voit pas de variation à ce chiffre-là. Et donc, ça nous autorise à envisager ce qui se passerait dans l'hypothèse où ça ne change pas. Mais effectivement, ça pourrait changer. Et si ça change, évidemment, l'espace des possibles explose complètement. Et donc, on ne peut plus rien dire.
On arrive à la fin non pas des temps, mais la fin de cette émission, Alain Riazuelo. Et je voudrais quand même boucler la boucle de cette émission et de parler de vos origines à vous. Vous êtes né le 8 octobre 1973 à Marseille. Vous obtenez votre baccalauréat, pardon, en 1990, mention assez bien. Est-ce que vous savez d'où vous vient ce goût des sciences? Est-ce que ça vient de votre cadre familial?
Alors, ça vient d'un environnement qui était favorable, hein. Petit-fils d'instituteur, une mère prof d'anglais, un père qui n'a pas eu l'occasion de faire des études, mais qui aurait voulu en faire et qui donc, d'une certaine façon, voulait que ses enfants fassent des études, ne serait-ce que pour vivre ça un peu par procuration. Donc, il y avait un environnement favorable et... quand on vous incite à être curieux, ben finalement vous trouvez quelque chose qui vous intéresse. Et alors pourquoi ça a été l'astronomie et pas autre chose, ça c'est plus difficile à dire et à ressentir. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être invité à être curieux. Oui.
J'ai su que vous lisiez en douce les magazines Ciel et Espace de votre frère.
Oui, c'est mon frère qui s'était abonné, mais c'est moi qui préférais ça. Et un jour, je sais plus quel jour, j'étais ado, peut-être lycéen, où il y avait une photo d'une nébuleuse que j'ai oubliée d'ailleurs, et d'un coup je me suis dit, mais en fait c'est beau. Et c'est beau, et donc j'ai envie d'étudier ça. Il y a quelque chose de l'ordre de l'esthétique qui s'est joué, c'est beau parce que les équations sont belles. C'est difficile d'expliquer que les équations sont belles, mais on peut trouver que les équations sont belles. Et en plus, les photos sont belles. Et voilà, il y a une recherche pour lier tout ça.
Voilà, vous avez été mordu par la beauté des sciences, finalement. Et merci de nous avoir partagé cette beauté-là, même apocalyptique. Dans quelques secondes, on écoute Alexandra Delbault, mais merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Et je rappelle que votre ouvrage La fin de l'univers, scénario pour le dernier acte, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et tout de suite, on reste dans l'espace, mais direction la Lune. C'est la chronique avec science.
Comment les éléments volatiles ont-ils disparu de la Lune? Les éléments volatiles, ce sont des éléments chimiques qui ont la capacité de passer d'un état solide ou liquide à l'état gazeux à des températures relativement basses. C'est le cas de l'eau, par exemple. Quand vous regardez la Lune, vous voyez qu'il n'y a pas d'océan, pas d'eau ou très très peu comparé à la Terre. Pourquoi la Lune est-elle si appauvrie en composés volatiles? À quel moment notre satellite naturel a-t-il perdu ses éléments? Est-ce qu'il n'y en a jamais eu? Ou se sont-ils volatilisés plus tardivement? Pour répondre à ces questions, le programme Apollo et les différentes missions ont permis de ramener des échantillons. Seulement, il n'était pas certain qu'ils reflètent véritablement la composition lunaire. Frédéric Moynier est professeur à l'université Paris-Cité et cosmochimiste à l'Institut de physique du globe de Paris.
dès les années 70, ou même en 1969, avec le retour des échantillons d'Apollo, les scientifiques ont pu analyser les roches et s'apercevoir qu'au-delà du fait qu'il n'y ait pas d'océan sur la Lune, les roches d'Apollo, par rapport à des roches terrestres, étaient elles-mêmes très sèches, étaient très pauvres en composés volatiles. Et donc, depuis les années 70, on se base sur un échantillonnage d'Apollo, donc des différentes missions d'Apollo, d'Apollo 11 à Apollo 17, pour essayer de reconstruire en fait la composition de l'intérieur de la Lune. On a une hypothèse de travail qui est que ces échantillons représentent la Lune. Mais en fait, ils ne représentent qu'une très très faible superficie de la Lune, et surtout autour de l'équateur, parce que toutes les missions Apollo étaient à peu près au niveau de l'équateur. Et donc, on a un biais d'échantillonnage, c'est-à-dire que c'est comme si sur la Terre, on allait essayer de reconstruire l'histoire de la Terre ou la composition de la Terre en allant échantillonner quelques endroits autour de l'équateur de la Terre. Et donc, est-ce que les échantillons d'Apollo représentent vraiment la globalité de la Lune ?
Comment savoir si ce que l'on a ramené de la Lune est bien fidèle à ce que l'on peut retrouver sur toute la surface de l'équateur au pôle? C'est ce qu'a voulu étudier cette nouvelle étude parue dans PNAS grâce à des météorites lunaires. Mais une question se pose, comment sait-on que ces météorites proviennent bien de la Lune? C'est vrai, on ne voit que très rarement les météorites tomber, donc il n'est pas possible de déterminer avec certitude quelle est leur origine. Mais dans ce cas précis, leur composition est très particulière et ressemble beaucoup aux échantillons d'Apollo. L'objectif de l'étude est donc d'analyser la composition isotopique d'une dizaine de météorites pour reconstituer l'histoire de chaque élément chimique et déterminer si les échantillons d'Apollo nous avaient induits en erreur ou non. Résultat, pas de fausses pistes, les compositions concordent, ce qui nous permet de confirmer que la Lune a perdu ses éléments volatiles dans sa jeunesse.
On a pu faire des modèles à partir de nos données pour expliquer que la Lune, en fait, s'était formée avec du matériel très similaire à la Terre, donc avec des concentrations en éléments dits volatiles à peu près similaires à la Terre, probablement un impact qui a arraché un bout de la Terre et qui a formé la Lune, mais qu'ensuite la Lune, quand elle s'est formée, était complètement fondue. Elle avait ce qu'on appelle un océan de magma, donc il faut imaginer une planète complètement fondue avec du magma tout autour de la surface de la Lune. Et à ce moment-là, on a eu un dégazage des composés volatiles à plusieurs milliers de degrés qui ont été perdus la Lune, et une grande partie d'ailleurs serait retombée sur la Terre. Donc ça, c'était notre hypothèse basée sur Apollo. Et ce qu'on a pu voir avec les météorites lunaires, donc certaines provenantes de la face cachée, c'est qu'elles avaient les mêmes signatures de nos isotopes que les échantillons d'Apollo. Et donc ceci a pu confirmer que la Lune est homogène et que la Lune avait perdu tous ses éléments volatiles lors d'une évaporation d'un océan de magma global à la surface de la Lune.
La principale limite, évidemment, c'est que l'on ne sait pas précisément de quelle région de la Lune proviennent ces météorites. Pour affiner notre compréhension de sa géologie, rien ne vaut des échantillons collectés directement sur place. Et c'est précisément ce qu'ont réalisé deux missions chinoises récemment. Chang'e 5 a rapporté des roches du nord de la face visible, tandis que Chang'e 6 vient, pour la première fois, de ramener des échantillons de la face cachée. Frédéric Moynier, qui est co-auteur de cette étude, et ses collègues font partie des trois équipes européennes sélectionnées pour analyser ces précieuses roches. En appliquant cette même méthodologie, ils espèrent ainsi couvrir l'ensemble de la surface lunaire et affiner l'histoire géologique de notre satellite.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Louanger, Alexandre Morales, Loïc Dutoit à la réalisation, Cassandre Puel à la technique aujourd'hui, Ruben Carmazine. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.